Radio Okapi.
12h à Kinshasa, le journal Jacques-Yves Molima.
Dix terroristes les ADF neutralisés hier dimanche. C'était au cours des affrontements avec les FARDC à Malaya, localité située à quelques kilomètres de Boga Centre, dans les territoires d'Irumu, en Ituri. Désormais, la hache de guerre est enterrée entre les villages de Fataki et Loutala en conflit foncier depuis un certain temps. En effet, ces deux entités ont reçu leurs cartes participatives et plans simples d'aménagement du territoire. Ceci ressort du programme multisectoriel du Maniema Pired, mis en œuvre par la coopération internationale allemande GIZ. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Maungano Kiyokamaki, secrétaire exécutif provincial de l'SID, engagement pour la citoyenneté et le développement au Sud Kivu. Il nous fait la restitution de la journée de la presse qu'il a organisée dans la ville d'Uvira ce week-end. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais avant d'aller plus loin, sachez que Kinshasa s'apprête à abriter les 17 et 18 août courants le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, dont la présidence pour l'exercice 2022-2023 sera assurée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au total, 16 chefs d'État et de gouvernement ainsi que des personnalités de haut rang sont attendus à Kinshasa en début de cette semaine. Des précisions avec Blaise Chindani Kambala.
Parmi les premiers dirigeants de l'Afrique australe ayant confirmé leur arrivée à Kinshasa figurent M. Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, M. Poupoun, président de l'île Maurice, M. Philippe Nyusi, président de la République de Mozambique, M. Hadj Gengob, président de la République de Namibie, Sa Majesté le Roi Swati III, accompagné de Sa Majesté la Reine du Royaume de Eswatini, M. Wavell Ramkalawan, président de la République de Seychelles, M. Akai Inde Ichilema, président de la République de Zambie, et M. Emerson Nangangwa, président de la République du Zimbabwe, les présidents de République de l'Angola, du Botswana, de l'Union du Comore, de Madagascar, du Malawi, ainsi que le roi du Lesotho sont également attendus malgré leur agenda très chargé. En attendant l'arrivée des chefs d'État de la SADC le mercredi 17 août 2022 dans la salle des congrès du Palais du Peuple, plusieurs délégations ministérielles séjournent déjà à Kinshasa depuis plusieurs jours pour des travaux préparatoires de cette importante rencontre. D'après une dépêche de la présidence, la réunion du Conseil des ministres des 16 pays de la SADC a été clôturée hier dimanche à Kinshasa. Les travaux proprement dits de ce 42e sommet auront lieu le mercredi 17 août avec l'ouverture solennelle dans la salle des congrès et les travaux à huis clos dans la salle des banquets du Palais du Peuple spécialement aménagée pour garantir le très bon déroulement des travaux entre chefs d'État.
Nous l'avons dit, en Ituri, 10 terroristes des ADF ont été neutralisés hier dimanche au cours des affrontements qui les ont opposés au FARDC dans la localité de Malaya à quelques kilomètres de Boga Centre au sud du territoire d'Irumu. Selon l'armée, ces malfrats ont attaqué cette localité afin de se ravitailler en vivres. Ce lundi matin, l'intervention prompte de l'armée a permis de déjouer une autre attaque de ces mêmes rebelles sur le site des déplacés de Tchabi. Marcel Kizabiamungu.
Dimanche, ces rebelles de ZADF ont attaqué d'abord la localité de Malaya vers 7h du matin, puis celle de Balibongo à 21h. C'était dans la région de Boga, à environ 120 km au sud de Bounia. Selon des sources coutumières, ces terroristes accompagnés de l'air de panda à provenance de la forêt de Zunguluka, de la chefferie voisine de Wales et Vonkutu, étaient venus piller des maisons d'habitation afin de se ravitailler en vivres. L'armée a rapidement répliqué à ces attaques. Selon les porte-parole de l'armée à l'Ituri, après plusieurs heures d'échange de tirs, 10 ADF ont été neutralisés et 6 autres capturés, dont un mineur. Le lieutenant Gilles Congo ajoute que des armes et munitions ainsi que des bombes artisanales ont été récupérées par l'armée. Ce combat a poussé des centaines de familles à se déplacer vers les centres des villages de Kinyanjonjo. Ce matin, les déplacés du site de la mission catholique de Tchabi ont été réveillés par des tirs sporadiques. Selon les soldats des FARDC sur place, il s'agissait des ADF qui voulaient attaquer deux civils hébergés à cet endroit. Mais les assaillants ont été repoussés par les forces loyalistes. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Toujours hier dimanche, mais cette fois-ci à Beni, perturbation dans l'après-midi au poste de péage de Luakobo-Mukulia après un échange de tirs entre les Maïmaï et les forces de l'ordre. Aucun autre incident majeur n'a été signalé sur place. Un dispositif sécuritaire est renforcé. Marc Marofimo.
Le chef du quartier Yakobo, en commune de Beu, indique que l'incident a eu lieu aux environs de 16 heures hier dimanche quand 15 miliciens Maïmaï, lourdement armés venus de leur lieu de cantonnement, ont envahi les postes de péage route à la barrière de Yakobo Mukulia. Jean-Marie Paloukou indique que ces derniers étaient venus réclamer leurs trois armes ravies à Kahongero par l'unité de la Légion nationale de terrorisation à provenance de Butembo. C'est après avoir récupéré une arme que les échanges de tirs s'en ont suivis sans aucun dégât matériel. La circulation était perturbée pendant que les forces de l'ordre et ses Maïmaï s'affrontaient. Quelques minutes plus tard, les Maïmaï se sont repliés et tout est redevenu calme et la circulation a effectivement repris. Les cadres de base des quartiers Yakobo et Mukulia demandent aux autorités d'accélérer les processus du programme de désarmement, démobilisation et récession sociale des jeunes volontaires au désarmement cantonnés à Kalunguta, car ils représentent un danger permanent pour la population de cette région et même pour toute la ville de Beni. Sur place, un dispositif conséquent des éléments de la police et des FRDC est renforcé et les activités socio-économiques tournent normalement. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, un commandant de la police nationale congolaise a été tué dans la nuit de dimanche à ce lundi vers 22h local dans la localité de Burungu. C'est dans le groupement de Bachali Kayembe, territoire de Masisi au nord Kivu. La victime, le commissaire Kibanja Ngabo, était commandant de sous-commissariat de Rushebeshi à Burungu. Selon les sources militaires sur place, la victime a été tuée par un militaire FRDC pour des raisons jusqu'ici non encore élucidées. Le tueur qui a par la suite emporté l'arme de la victime avant de la remettre aux mains de l'armée est déjà aux arrêts, précise ses sources. On reste au nord Kivu, de plus en plus certaines populations décident de retourner malgré elles dans leur localité occupée par les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. C'est à cause de la souffrance qu'elles endurent dans les milliers de refuges, mais aussi dans de la léthargie observée quant aux opérations militaires. D'après plusieurs sources locales, les habitants perdent espoir et regagnent progressivement leur village d'origine où ils subissent malheureusement des abus divers de la part des rebelles. Le point avec Tati Mapoko.
Plus de 2 mois après l'occupation de leurs entités des groupements de Djomba, Busanza, Kisigari et autres par la rébellion du M23, la population retourne progressivement vers Kabindi, Kabasanza, jusque vers Chanzu, rapportent plusieurs sources. Et c'est en dépit des modes opératoires des rebelles, notamment les pillages, les travaux forcés, les tabassages et autres. Nos sources dans la région affirment que des cas de décès sont aussi enregistrés régulièrement, dont le dernier serait celui d'un jeune de Kabindi qui aurait succombé à ses blessures. Certaines victimes seraient également prises en charge à l'hôpital de Rwanguba, ajoutent nos sources. Des conditions qui obligent les habitants à faire des allers-retours selon chaque individu. Des témoins contactés dans la région de Djomba affirment que les retournés continuent à être forcés de creuser en faveur des rebelles dans une concession privée supposée contenir des substances minérales. D'autres habitants sont forcés de transporter de l'eau, du bois de chauffage et d'autres travaux de main-d'œuvre. Cependant, dans le groupement de Kisigari, les habitants regagnent les villages Ruvumu, Kabaya, Kanyabusoro, Ruchiro jusqu'au Bunagana. Selon nos sources, ces retournés ne subiraient pas d'exactions comme ceux de Djomba. Aucune activité champêtre ou socio-économique n'a repris dans ces zones occupées par les rebelles, car la sécurité n'est pas encore garantie, précisent nos sources.
Toujours au nord Kivu, il s'observe une hausse du prix des produits agricoles dans les territoires de Rutshuru. Un sac de haricots de 100 kilos par exemple, qui se vendait localement à $50, coûte actuellement $100. Une situation consécutive à l'instabilité sécuritaire que connaît ce territoire depuis la résurgence en mars dernier de la rébellion du M23 et les mouvements massifs des populations paysannes abandonnant leurs champs. En vacances parlementaires à Goma, le député national Jean-Baptiste Kasekwa, qui fait ce constat, alerte sur les conséquences de ces situations sur la ville de Goma et même sur la province du Sud Kivu. Le lieu de Goma invite le gouvernement congolais à trouver une solution urgente. On l'écoute, les députés Jean-Baptiste Kasekwa.
Avant que la crise n'éclate, un sac de haricots coûtait à Goma $50. Aujourd'hui, à Rutshuru même, le sac est à $100. Le sac est à $85 à Goma à cause de la production de Masisi. Or, bientôt, la production de Masisi va cesser. Ces habitants de Djomba, de Bweza, de toutes ces collines qui constituent les poumons agricoles de Rutshuru et du Nord Kivu, n'ont pas la possibilité de cultiver leurs champs. C'est dire que d'ici octobre-novembre, le prix des denrées alimentaires va grimper. Même chose à situation à Beni, à Oicha. La farine de maïs consommée vient de Goma, vient de Rutshuru. Et de Rutshuru, de Goma par où? C'est la farine produite en Tanzanie, produite dans des pays voisins. Donc la situation est critique, qu'il faille que la population réfléchisse.
Le territoire de Rutshuru est le deuxième territoire agricole après Massissi en termes de production agricole. On y cultive le haricot, le manioc, le maïs, l'oignon, la tomate, les petits pois, pour ne citer que ces quelques légumes. Dans la province du Maniema, après les villages Mambwe et Kidinkimozi, ce dimanche 14 août a été le tour des terroirs Fataki et Lutala, situés respectivement à 68 km de Kindu dans le groupement Djoua, de recevoir également leur carte participative et plan simple d'aménagement du territoire. Cela de la part de Pired Maniema, programme intégré pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, mise en œuvre par la coopération internationale allemande GIZ. Ces villages qui enregistraient beaucoup de conflits fonciers dus au non-respect des limites font savoir que désormais, avec ces instruments, la hache de guerre est enterrée. Florence Kizalunga.
Avant que cette hanche de guerre ne soit enterrée, il y a eu un processus de consensus entre voisins lors de la cartographie participative. Ces deux communautés remercient la GIZ Pired Maniema pour ce projet qui, selon eux, vient les réconcilier en ce qui concerne la gestion durable de leur forêt. Kiamikinga Mathieu, chef des groupements Djoua.
Par rapport à cette initiative, vraiment, nous sommes très contents. Nous remercions Pired Maniema à travers GIZ qui vient de nous faciliter ces cartes et plans d'aménagement du territoire, vient de nous réunir puisque chaque communauté connaît ses limites et nous allons vivre ensemble sans qu'il y ait de querelles entre nous.
Cet avis est partagé par le président du comité consultatif de résolution des conflits coutumiers, Alimet Kangela.
Alors vraiment, c'est une bonne chose pour nous. Ce PESAT que nous venons de recevoir aujourd'hui va nous aider à gérer les problèmes des conflits fonciers. Dès qu'il y a un problème, nous allons recourir tout juste à cette carte. Parce que dans la communauté, il y a beaucoup de problèmes liés aux conflits fonciers.
La fin de ce processus a été saluée par l'administrateur du territoire de Pangui ainsi que le ministre provincial de l'aménagement du territoire. Depuis Pangui, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
À Libenge Centre, dans le sud Ubangi, plusieurs produits de première nécessité continuent à monter des prix sur le marché. La population, pour la plupart de ministres, plaint que certains produits ont carrément doublé. Parmi les causes, il y a le mauvais état des routes qui rend difficile leur évacuation, mais aussi l'afflux des acheteurs expatriés. L'administrateur s'engage à lutter contre l'exportation incontrôlée au détriment des populations locales. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Depuis quelques semaines, a indiqué l'administrateur du territoire, les habitants de Lumengue Centre font face à une hausse persistante des prix des denrées de première nécessité, particulièrement des produits vivriers qui proviennent des villages environnants. La Théoute Nongue.
Le bidon d'huile de 5 litres se vendait à 3 500. Maintenant, c'est 8 000. Le bassin de foufou, ça se vendait à 4 000, 5 000, maintenant c'est à 9 000. Et à l'époque, le vin chenille suivant, on vend ça à 100 francs. Maintenant, 7 000 à 100 francs. Le verre d'arachide se vendait à 350, 400 francs congolais et maintenant c'est à 800.
La destruction des routes de desserte agricole et les difficultés de transport dues au prix élevé d'essence sont à la base de cette situation, a expliqué la Théoutou. À cela s'ajoute l'afflux des trafiquants centrafricains et congolais de Brazzaville. Ils traversent et vont chercher des produits jusqu'au fin fond du village, a-t-il dit, proposant des taux élevés aux vendeurs paysans. A cet effet, l'administrateur du territoire compte canaliser leurs échanges commerciaux au seul marché de la cité de Libenge.
Nous avons créé que tous les produits puissent d'abord arriver au marché pour nous sortir avec, c'est-à-dire on doit acheter au marché. Et à ce moment, nous pouvons contrôler les prix.
En attendant, les habitants moins nantis de Lubengue Centre devront jusque-là s'accommoder à la triste réalité des hausses de prix sur leur marché. Bondaka pour Chamalingela, Radio Okapi.
Akalemi grogne des tâcherons de la SNCC depuis ce week-end. Ils dénoncent le mauvais traitement dont ils se disent victimes de la part de l'employeur. Ils sont une vingtaine au total. Certains d'entre eux ont plus de 25 ans de service comme journaliers et exigent leur engagement à la SNCC suivant le code du travail. Ils ne sont pas contents aussi de la modicité de leur salaire. On écoute l'un d'entre eux qui a requis l'anonymat. Il est au micro de Paulin Munanga.
Il y a ceux qui ont commencé à travailler depuis 1992 ou 2000, et puis ceux qui travaillaient depuis 2008 et 2012. À propos de l'engagement au sein de la SNCC, il y a eu une offre d'emploi. Nous avons refusé de postuler. Alors les responsables de la société nous ont demandé de le faire, disant que si vous ne postulez pas, l'inspecteur du travail dira que nous n'avons pas respecté la procédure. Et il nous a promis que nous serons avantagés et cela sera juste une couverture. Nous avons postulé, mais à notre surprise, nous avons constaté que ceux qui ont satisfait au test, ce sont leurs enfants et membres de leur famille. Nous demandons notre engagement. Nous avons presté pendant plusieurs années à la SNCC comme journalier. Nous touchons 84 000 francs congolais. Avec cet argent, comment allons-nous faire? Le souhait des responsables de la SNCC Kalemi est de diviser les tâcherons en deux groupes. L'entreprise ne nous reconnaît pas malgré le nombre d'années passées à la SNCC comme journalier. C'est-à-dire qu'on va te
reconnaître. Contactés, les responsables de la SNCC Kalemi se sont réservés à tout commentaire. Pour sa part, l'inspecteur du travail de Kalemi reconnaît qu'il y a eu violation du code du travail. Cependant, il regrette que les tâcherons l'aient saisi en retard.
Actualité internationale.
Les Kenyans ne connaissent toujours pas le nom de leur prochain chef d'État, mais un nombre important d'élus locaux ont déjà été annoncés depuis le scrutin du 9 août. Dans l'Ouest, une victoire a été remarquée, celle de Martin Wanyonyi, élu député dans la circonscription des Webuye Est. Il devient ainsi le premier député élu atteint d'albinisme. Cette particularité génétique se caractérise par une production insuffisante de mélanine. Son élection est un symbole fort au Kenya, où les personnes albinos ont historiquement été victimes de discriminations, voire d'attaques.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Maunga Nokiokimaki, secrétaire exécutif provincial de l'ECID, engagement pour la citoyenneté et le développement au Sud Kivu. Il nous fait la restitution de la journée de la presse qu'il a organisée dans la ville d'Uvira ce week-end. Maunga Nokiokimaki s'entretient avec Fiston Goma. Suivez.
Maungano Kioka Maki, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur les journalistes.
Quelles sont les grandes résolutions de ce grand meeting aujourd'hui à Uvira?
Nous, ECID, et tous les Congolais qui étaient avec nous, nous avons décidé de prendre le président Martin Fayulu Madidi comme candidat gagnant aux élections de 2023 pour soulager la population congolaise.
Le deuxième point?
Le deuxième point, c'était la non-reconnaissance de la ville d'Uvira comme une circonscription électorale. Nous avons découvert que la province du Sud Kivu est gérée par plusieurs personnalités, plusieurs politiciens d'une mauvaise foi qui sont en train de faire en sorte que la ville d'Uvira ne soit pas reconnue comme une circonscription électorale. Nous avons collecté les informations auprès du peuple d'Uvira qui a dit non. C'est un message que nous lançons à M. Kadima et tous ces politiciens de Bukavu et d'autres politiciens d'Uvira qui sont mal intentionnés pour cette politique d'intérêt Uvira.
Est-ce qu'il y a des enjeux que vous entrevoyez derrière ces statuts-là de la ville?
Comment est-ce que nous pouvons avoir une ville qui doit avoir des communes, mais toutes ces communes-là ne fonctionnent pas? Ces communes-là n'ont pas d'animateur. C'est une mauvaise foi. La ville d'Uvira, par exemple, il y a la prolifération des taxes. Le peuple congolais est en train de donner les taxes, mais la ville d'Uvira n'a pas de rétrocession. La ville de Baraka, la ville de Kamituga, la même chose. Donc, il y a un vol qui est organisé par l'administration centrale. C'est pourquoi on n'est pas d'accord que ces villes soient exclues comme circonscription électorale, Uvira, Baraka et Kamituga.
Pourquoi vous ne vous êtes pas renseigné auprès de la CENI Sud Kivu pour en savoir plus autour de cette question?
Nous nous sommes renseignés à la CENI, nous nous sommes renseignés à Kinshasa, à la CENI même. Tous les réseaux qu'on nous a donnés ne sont pas fondés. C'est une anomalie de l'administration. Lorsqu'on a voté la loi électorale, on a aussi mis les annexes de 2018. Tout en ignorant ce décret de 2013 qui a conféré l'agglomération d'Uvira comme une ville. On n'a pas renouvelé cette annexe et c'est ça l'anomalie qui est là. Ça, ce n'est pas notre problème. C'est un problème de l'administration qui doit être résolu. C'est pourquoi nous disons que cette annexe de la ville d'Uvira, la ville de Baraka et la ville de Kamituga doit être insérée et que la nouvelle liste de circonscriptions électorales, Uvira ville, Mwenga, Kamituga et Baraka doit ressortir comme des circonscriptions électorales. Et si, par malchance, M. Kadima et tous ces politiciens, je pèse mes mots, les politiciens charlatans de Bukavu qui sont derrière cette question, je dis que ça va tourner mal et on saura Uvira c'est quoi, Baraka c'est quoi et Kamituga c'est quoi.
Revenons à votre troisième point.
Le troisième point, la guerre au Congo. Nous avons montré que cette guerre du Rwanda à travers le M23, c'est la cinquième guerre. Monsieur Félix est complice dans cette cinquième guerre. Parce que c'est lui qui est en train de signer les accords avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Et tout cela, les Congolais sont en train de mourir, on est en train de piller les ressources du Congo.
Quelle est la voie de sortie que vous proposez?
C'est l'article 63 et l'article 64 de notre constitution. Vous avez suivi les porte-parole de la MONUSCO. Le gouvernement congolais n'est pas capable de chasser ces terroristes. Et donc, la responsabilité revient aux Congolais de s'autoprendre en charge tel que notre constitution nous autorise de le faire.
Alors, quelle est votre position par rapport au départ de la MONUSCO?
Monsieur le journaliste, le départ de la MONUSCO, j'ai dit que c'est une irresponsabilité du gouvernement congolais. La MONUSCO n'a pas ce pouvoir de protéger le peuple congolais. Celui qui a la responsabilité de protéger le peuple congolais, c'est le gouvernement congolais, malheureusement, qui est aussi complice de toutes ces milices qui tuent jour et nuit les Congolais.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.